pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, plus de 80% de l'alimentation mondiale est produite par des exploitations familiales. Et pourtant, parmi les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, les deux tiers sont justement des petits paysans. Un paradoxe particulièrement visible en Afrique subsaharienne, mais qui n'est pas une fatalité. Il faut améliorer les méthodes de production, notamment en diffusant l'agroécologie, développer le stockage des récoltes, permettre aux paysans d'accéder à la terre et que les gouvernements investissent enfin dans l'agriculture. Mais il faut aussi valoriser les productions des paysans des pays en développement pour leur faire une place dans notre économie globalisée. C'est l'objectif justement de l'indication géographique.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Aurélie Amim-Richard.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet indication géographique à l'Agence française de développement. Pour faire simple, vous accompagnez des groupements de producteurs justement dans cette démarche ?
L'AFD accompagne depuis de très nombreuses années les exploitations familiales à travers le monde, qui constituent la principale forme d'organisation de l'agriculture, notamment en Afrique, avec 500 millions d'exploitations agricoles qui emploient 40% de la population active. Donc cette mission d'accompagner ces groupements de producteurs font partie du cœur d'activité de l'AFD depuis très longtemps. Et dans notre démarche d'accompagnement de ces filières à travers la reconnaissance d'indications géographiques, c'est vraiment montrer que l'agriculture familiale n'est pas uniquement une agriculture de subsistance tournée vers l'autoconsommation, mais qui est une agriculture également et avant tout moderne, orientée vers les marchés, à destination des marchés locaux mais également à l'export, et qui s'insère dans des filières de transformation et de valorisation de ces produits.
Alors comment est-ce que vous définiriez ce principe d'indication géographique en quelques mots ?
C'est un droit de propriété intellectuelle qui a une particularité puisqu'il est collectif. Il concerne un groupe de producteurs et un groupe d'acteurs d'une filière. En tant que droit de propriété intellectuelle, c'est un signe distinctif qui lie la qualité d'un produit donné à son origine géographique et à une particularité et une qualité spécifique qui est liée à cette origine et à un savoir-faire associé, un savoir-faire traditionnel.
Alors justement, pour bien comprendre comment un produit peut prétendre à ce label, je vous propose d'aller dans l'ouest du Cameroun, à 3000 mètres d'altitude. La ville d'Oku est perchée sur les flancs de la montagne de Kilomijim. Le paysage est dessiné par des cultures en terrasse et des terres rocheuses et pelées, qui rappellent d'ailleurs l'origine volcanique de la montagne. C'est l'un des rares endroits où il fait moins de 10 degrés le matin. Mais si Oku est connu dans tout le Cameroun, c'est grâce à son miel blanc. Il a un goût exceptionnel, un peu citronné, qui provient justement du climat et de la diversité des espèces des arbres de la forêt, un écosystème que l'ONG Kamju essaie de sauvegarder et de développer depuis 2011. Alice Milo a rendez-vous avec Emmanuel Binioui, son directeur.
This is where found in Oku.
Nous sommes ici à Oku, sur le mont Kilomijim, tout près de la forêt communautaire. On est ici sur l'un des points les plus élevés du pays, à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est la deuxième montagne la plus haute du Cameroun. Comme vous pouvez le voir, c'est un paysage rocheux, car la montagne est un ancien volcan.
Et donc là, effectivement, on voit bien que cette forêt, finalement, elle coiffe le sommet de la montagne, et en dessous commencent les champs. Le travail des champs a commencé, là d'ailleurs, on voit plein de gens qui sont en train de biner les champs. On est à quelques mètres des premières habitations qui longent la forêt, on voit les toits des fermes qui sont vraiment pas loin. Oku, c'est un village qui est de combien d'habitants ?
Il y a 130 000 personnes qui vivent à Oku. Ce sont principalement des agriculteurs. Mais si on tient compte de ceux qui habitent à moins d'une journée de marche de la forêt, on peut compter plus de 200 000 personnes. Et donc il y a une forte pression, car à cause du manque de travail et de la pauvreté, tous ces gens dépendent de la forêt.
On y va ? On rentre dans cette forêt ?
Oui, on y va. On va entrer dans la forêt. D'ici 2 minutes, nous serons à l'intérieur.
This forest to us is very special.
C'est une forêt vraiment spéciale parce que, comme vous pouvez le voir, quand on marche à l'intérieur, il y a des ruches en forme de cylindre comme celle-ci. Oui, parce que c'est vrai, je parle depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai même pas encore dit ce qui rend cette forêt si spéciale. Eh bien, c'est le miel blanc de Oku. C'est un miel certifié indication géographique protégée. C'est d'ailleurs juste à partir de cet endroit que débute cette IGP. Si le miel qui est produit ici est blanc, c'est à cause de ces arbres que vous voyez là. Vous voyez celui-là qui est en train de fleurir ? Il s'appelle Schaeffler Mani. Et là aussi, il y a un autre Schaeffler Abyssinica. Et voilà, c'est donc grâce à ces deux arbres que les abeilles produisent le miel.
Les gens d'ici produisent du miel depuis très longtemps ?
Oui, la forêt a toujours été là, et l'apiculture n'est pas une activité nouvelle. Ils en produisent depuis très longtemps, avant même qu'ils ne soient vendus. Avant, les gens d'Oku allaient à Gambé avec leur miel. C'est une autre communauté où ils fabriquent essentiellement de l'huile de palme, et donc ils faisaient du troc.
Mais Emmanuel, quand vous êtes arrivé ici en 2011, si vous avez fondé Kamjoui, l'ONG que vous présidez aujourd'hui, c'est parce que cette forêt était menacée.
Oui, on a découvert plein de problèmes. Le premier, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a que des grands arbres. Les petits étaient systématiquement coupés par les gens du coin qui les utilisent pour faire du bois de chauffe ou pour fabriquer des outils. Et les chèvres faisaient également beaucoup de dégâts.
On en voit là partout autour de nous. D'ailleurs, elles sont en train de brouter. Elles sont en train de brouter aux abords de la forêt.
Oui, il y a beaucoup de chèvres, beaucoup de moutons. Au sommet de la forêt, il y a une zone de savane avec de l'herbe fraîche. On y trouve des centaines de chèvres et même des vaches. Mais parfois, ces animaux quittent la zone et viennent brouter les jeunes arbres de la forêt. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que la forêt est un écosystème. Chaque arbre a un rôle à jouer et rien n'est inutile.
The biggest problem that we have too is bushfire. Bushfire has been one of the greatest problems in the Kilimanjaro forest.
Mais le plus gros problème que nous ayons, ce sont les feux de brousse. Souvent, cela arrive parce que les apiculteurs ont besoin de faire de la fumée pour éloigner les abeilles et récolter le miel. Souvent, ils utilisent une méthode d'enfumage traditionnelle. Mais les étincelles tombent, ils ne les éteignent pas et ça déclenche des feux. Et du coup, tout brûle. La forêt, les ruches de l'apiculteur, mais aussi celles des autres. C'est une vraie catastrophe.
Alors, on a quitté la forêt de Oku, on est redescendu dans le village. Là, on est en train de marcher au milieu des maisons. Quelle solution, finalement, comment votre ONG Kamjoui a décidé de résoudre ce problème pour sauver la forêt ?
On a pensé qu'il fallait encourager les populations à pratiquer encore plus l'apiculture. Parce que quand les gens possèdent des ruches dans la forêt, ils font attention. Ils veulent récolter le miel et donc ils protègent et leurs ruches et la forêt. Donc il nous a paru important de former les habitants d'Oku pour qu'ils apprennent à construire leurs ruches et à pratiquer correctement l'apiculture. Et donc là, justement, on va aller voir ensemble comment on construit une ruche.
Donc c'est vous, monsieur, le constructeur de ruches ?
Yes.
Oui, c'est moi.
Vous êtes entouré de lanières de bambou et vous commencez déjà à travailler à construire la ruche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre technique ?
J'utilise du bambou de raffia ou du bambou de Chine, car ce sont les matériaux qui permettent le plus facilement aux abeilles de fabriquer leur cire. Si les abeilles manquent de fleurs dans la forêt, notamment pendant la saison des pluies, elles peuvent se nourrir du bambou.
Vous avez une grande lanière en bois souple et vous êtes en train d'enfiler les bambous comme une tresse, en fait. Et ça doit former ensuite un cylindre, c'est ça ?
Oui, j'ai appris à construire ces ruches traditionnelles en observant mon père et mon grand-père depuis que je suis gamin. La dernière fois qu'il y a eu un feu de brousse, j'ai perdu 15 ruches avec les abeilles à l'intérieur. C'est une véritable perte économique, car ici on gagne notre vie grâce au miel. Mais depuis que l'ONG Kamjoui est arrivée, j'ai changé mes pratiques. Avant, quand on partait en forêt récolter le miel dans nos ruches, on faisait du feu sur place. Mais maintenant, on fabrique les enfumeuses à la maison et on part avec au moins 5 litres d'eau. Il faut aussi penser à retirer la paille sèche qui recouvre la ruche quand on enfume. Et après la récolte, on prend le temps de bien éteindre nos enfumeuses. Grâce à la sensibilisation de Kamju, on a radicalement réduit le nombre de feux de brousse à Oku. Avant, quand il y avait des feux de brousse, ça tuait toutes les petites fleurs. On pouvait être sûr que ça allait être une très mauvaise année. Alors que maintenant, on a des fleurs à tout moment.
Donc Yengo vient de terminer de construire sa ruche. Une fois que la ruche est terminée et construite, comment ça se passe ensuite pour coloniser les ruches?
En général, la colonisation ne se fait pas en région froide, c'est-à-dire vers la forêt. Donc après avoir construit la ruche, elle est transportée dans une région chaude, en bas dans la vallée. Donc les ruches sont colonisées là-bas, c'est aux environ 15 km d'ici. Et c'est là-bas où il y a beaucoup d'abeilles. Les abeilles entrent avec une ruche déjà, c'est leur maison. Et ils sont en mesure de construire et pouvoir garder leur nourriture qui est le miel. Et après ce temps-là, l'apiculteur va porter sa ruche d'abeilles. Et il va les amener dans la forêt où il va les placer. Et ça sera un site permanent. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes chanceux puisque Yengo, qu'on a vu tout à l'heure ce matin, construit la ruche pour nous. Il va transporter la sienne dans la forêt qu'il a déjà fait coloniser. Et je pense qu'on va monter avec lui.
Ah, bah le voilà.
Le voilà déjà. Bon.
Alors ça y est, donc Yengo porte la ruche. C'est un gros cylindre en bambou qui doit faire à peu près 1 mètre de long. Donc là, on commence l'ascension vers la forêt.
Oui, on commence l'ascension et je pense qu'on va monter. On va marcher près de 700 mètres ou 1 km avant d'arriver au niveau de la forêt.
Yengo, combien de ruches vous avez déjà placées comme ça dans la forêt, dans la montagne?
Jusqu'à maintenant, j'en ai déposé 14.
Est-ce que c'est un moment de votre travail d'apiculteur que vous aimez particulièrement?
C'est l'un de mes moments favoris. Quand je transporte mes abeilles dans la forêt, je me dis que très bientôt, j'aurai une récolte. Je souris d'avance à ce qui m'attend.
Yengo, vous savez combien elle pèse, la ruche que vous avez sur la tête, là?
Elle doit peser environ 25 kilos. Mais quand les abeilles se reproduisent, la ruche peut peser beaucoup plus lourd. Il faut être très prudent quand on les transporte, car si on les secoue trop, la cire qui est à l'intérieur risque de se casser, et je pourrais perdre les petits qui sont dedans.
Là, la ruche de Yengo, elle est au milieu de la forêt, au milieu de toutes les autres ruches. Il y a énormément de ruches autour de nous. Comment peut-il être sûr que personne ne va lui voler son miel?
Je pense qu'à Oku, l'apiculture en général, c'est une activité sacrée et il n'y a pas de vol de miel dans la forêt. Mais l'histoire a montré que chaque personne dans la forêt, soit dans la tribu Oku ou dans la tribu Kom, lorsqu'il vole du miel dans la forêt, il y a toujours des maladies qui attaquent ces voleurs de miel.
De la sorcellerie?
De la sorcellerie, un style de sorcellerie. Donc. Mais aussi, chaque utilisateur de forêt, s'il est en forêt aussi, et qu'il est beaucoup fatigué, et il a faim, et il ne trouve pas quoi manger, s'il retire un morceau de scie d'abeille dans la ruche de quelqu'un, ça, ce n'est pas du vol, c'est une personne qui est affamée. Et très rarement, à Oku, tu peux entendre parler que quelqu'un a ouvert la ruche d'une personne et récolté. Très rarement, mais aussi, comme je disais tantôt, ceux qui ont fait cela, on finit très mal.
Quel est l'intérêt d'avoir fondé des coopératives en fait?
Beaucoup de gens fabriquent du miel et sans la coopérative, il ne serait pas transformé correctement. Ils risquent de le goûter avec une passoire sale ou de le conserver dans un seau sale. alors qu'avec la coopérative, ils sont sûrs de la qualité.
En quoi c'est un miel pas comme les autres, d'après vous, le miel blanc de Oku?
Eh bien, je vous invite à regarder ce miel. Regardez comme il est beau. La couleur est incroyable et l'odeur qui s'en dégage est si puissante. Il me fait saliver avant même que je le goûte. Et quand vous le mettez dans votre bouche, il a ce goût de fleurs un peu fumées et cette texture crémeuse. Vous voyez, si je suis une personne dynamique et en pleine forme, c'est parce que je mange ce miel tous les soirs. Et je m'endors à la minute où je m'allonge sur mon lit, jusqu'au matin. Rien ne me réveille. Et quand je me lève le matin, je suis comme régénéré. Et ce miel a aussi des propriétés médicinales. Si vous avez mal au ventre ou à la tête, si vous êtes constipé, ça soigne aussi le stress ou les faiblesses sexuelles. Ça vous rend plus fort et vous n'aurez jamais de problème.
Il est vendu où ce miel ensuite ?
They sell it in Yaoundé, they sell it in Douala, they sell it in Bamenda.
Il est vendu à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, à Kumba. C'est une très grande activité et génératrice de revenus pour les gens d'ici. On vend le litre à 4000 francs CFA, soit environ 6 euros. Ça permet aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école, d'aller à l'hôpital s'ils sont malades, grâce à l'argent du miel. Un jour, il y a un apiculteur dans un village non loin d'ici qui nous a dit « Ma maison, c'est grâce au miel. L'école de mes enfants, c'est grâce au miel. Et la dot de ma femme, c'est grâce au miel. »
La meilleure façon d'impliquer les gens dans la protection de la nature, c'est qu'ils y trouvent un intérêt financier.
Oui, et là, la relation est très claire entre l'apiculture, la préservation de la nature et les affaires. Le miel est un excellent moyen de préserver la forêt de Kilimanjaro, de lutter contre la pauvreté, de raviver l'économie et de lutter contre le changement climatique.
Un reportage de Alice Milot et de Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron. L'ONG Kamjou fait partie du programme des petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial. Ce programme est géré par le comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aurélie Amim-Richard, je rappelle que vous êtes chef de projet indication géographique à l'Agence française de développement. Vous avez vous aussi accompagné les producteurs de miel d'Oku. Alors du miel qui se vend 10 000 francs CFA le kilo, c'est quand même beaucoup d'argent, ça fait à peu près 15 euros. Et on comprend que ça attise les convoitises et la fraude. Alors comment est-ce qu'on fait pour défendre son label ?
Oui, c'est toujours un sujet dans le cadre des indications géographiques, puisque l'objectif de l'IG, et le premier objectif des producteurs, des acteurs de la filière, c'est d'augmenter leurs revenus. Et donc, associé à cette démarche d'indication géographique, il y a tout un tas d'activités de communication, de marketing autour de leurs produits pour essayer de toucher des marchés de niche à plus forte valeur ajoutée et donc pouvoir vendre leurs produits à un prix plus cher. Donc très souvent, on observe en parallèle de la mise en place de l'IG une augmentation de ce prix de vente lorsque la démarche marketing est bien mise en place.
Mais il y a du coup des petits malins qui essayent de copier et de piquer un peu des parts de marché.
Effectivement, l'augmentation de ce prix de vente crée des opportunités également. Et en matière de lutte contre la fraude, il y a aujourd'hui deux sujets. La lutte contre la fraude sur les marchés, donc venant de l'extérieur, un miel ou un poivre, on le verra aussi dans le cas du poivre de Penja, qui viendrait d'une autre origine et qui serait vendu sur les marchés sous le label poivre de Penja. Et le contrôle également de bon respect du cahier des charges pour s'assurer de la qualité du produit qui est vendu, avec aussi un opportunisme qui peut exister de certains producteurs de produire peut-être avec une qualité moindre et de le vendre toutefois sous ce label. Donc il y a vraiment un contrôle sur la filière à avoir avec différents niveaux de contrôle, un contrôle interne de l'association des producteurs sur chacun de ses membres pour s'assurer que chaque producteur joue le jeu et respecte le cahier des charges. Un contrôle externe qui est du rôle de l'État. Donc on va pouvoir parler aussi du rôle de l'État et des autorités publiques dans
Alors on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Donc ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Thank you.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Si vous nous rejoignez, nous parlons du label Indication géographique ou Indication géographique protégée. Ça dépend si on est en Afrique ou en Europe. En tout cas, on en parle aujourd'hui dans C'est pas du vent. C'est un moyen pour permettre aux agriculteurs familiaux qui produisent tout de même 80% de l'alimentation mondiale de défendre leur production dans une économie globalisée. Aurélie Amim-Richard, je rappelle que vous êtes chef de projet Indication géographique à l'Agence française de développement. Alors, combien existe-t-il de produits labellisés Indication géographique dans le monde aujourd'hui?
Alors c'est très difficile à quantifier exactement, mais on peut estimer qu'il y a entre 9 et 10 000 indications géographiques dans le monde aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, il y en a un peu plus de 3 000 aujourd'hui dans l'Union européenne, donc plus d'un tiers. Et la majeure partie des indications géographiques sont plutôt aujourd'hui dans les pays du Nord, de l'OCDE. Depuis les années 2000, les IG se développent relativement bien en Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde. L'Inde qui a plus de 200 IG aujourd'hui. Au niveau du continent africain, il existe quelques IG au Maroc, en Tunisie, donc en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, en revanche, au travers d'un projet que nous avons mis en place avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, nous avons pu faire reconnaître les trois premières indications géographiques en Afrique.
Oui, donc on a entendu dans la première partie de l'émission un reportage sur le miel d'Oku. On va en entendre un bientôt. Et puis il y a aussi en Guinée un café, je crois.
C'est ça, le café Diamama Saintin en Guinée-Conakry.
Mais donc il y a un vrai problème de déséquilibre nord-sud, alors que ce sont justement les producteurs des pays du sud qui ont le plus besoin de défendre leur production sur le marché mondial aujourd'hui.
Oui, oui. Et l'accompagnement de ces pays du sud à la mise en place d'indications géographiques, c'est véritablement un accompagnement aussi de ces filières et de ces acteurs économiques dans les pays du Sud à mieux s'insérer dans le commerce local et international pour pouvoir bénéficier de cette mondialisation dont ils sont souvent les premières victimes.
Oui, même localement. Alors ce label, c'est vrai, c'est un véritable outil de développement agricole. C'est un moyen de différencier sa production et de se faire une place, donc non seulement sur le marché local, mais aussi international, on l'a dit. Et le poivre de Prenja, produit dans la région du littoral au Cameroun, est l'un des trois premiers produits africains à avoir reçu en 2013 ce label, Indication géographique, mis en place par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cerise Maréchaux est allée à la rencontre des acteurs de la filière à Prenja, dans le département de Mungo, à l'est du Cameroun.
Bonjour. Nous sommes pleins dans la cueillette.
La cueillette du poivre blanc?
Oui.
Elle est solide, votre échelle en bambou?
Ça, c'est celle bambou de Chine. Quand même, nous sommes rapides. Par jour, quelqu'un peut faire même 100 kilos comme ça, 120 kilos.
Par jour?
Oui, par jour.
Vous vous appelez comment?
Oumarou. Moi, je suis venu de l'Ouest.
Donc vous avez migré pour travailler ici dans l'agriculture?
Oui, voici troisième année qu'on est dans les poivres.
Attention!
Vite-toi, hein. Tu peux tomber sur toi.
Tombez pas! Bonne chance alors!
Oui, oui madame.
Ok, les graines bien mûres. Hein. Allez, bon courage. Hein.
On récupère les graines bien en maturité, mais qui n'ont pas de graines jaunes ou rouges. Il doit garder sa peau. Elle doit perdre sa peau pendant la transformation. Je m'appelle Takungu Mandré, chef de production de plantations Motomo.
Où sommes-nous là exactement?
Nous sommes dans les plantations Motomo, au centre de Prenja, le département du Mungo et la province du littoral.
Ces plantations Motomo, c'est une propriété de combien d'hectares?
En poivre, on est à 30 hectares. Monsieur Motomo a sollicité qu'on puisse multiplier plus de plantations de poivre que les autres cultures.
Il a voulu privilégier le poivre sur la banane ou l'ananas, par exemple.
Oui, il a fait les calculs, il a vu que le poivre peut se conserver parce que l'ananas, à la date de récolte, l'avion, il y a panne d'avion. Au bout de 3 jours, votre production vous reste entre les mains et vous ne pouviez rien faire. Vous perdez de l'argent. Par contre, le poivre, on peut récolter le poivre, on peut le garder au magasin pendant 3 ans et le vendre, il garde la même vertu.
C'est plus sûr?
C'est plus sûr avec le poivre. Une culture, on l'admire quand elle peut se vendre, mais pour le moment, on n'a pas de stock. Donc il est directement consommé.
Pourquoi vous n'avez pas de stock?
Parce que la demande est supérieure à l'offre, pour le moment. Et nous espérons que dans toutes les cuisines du pays, le poivre est sollicité.
Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce poivre que vous venez de collecter?
C'est le poivre de Pendja, parce que le nom poivre de Pendja vient de la terre où nous la cultivons.
Elle est comment, cette terre?
Cette terre, elle est semi-volcanique. Il y a les larves volcaniques du mont Cameroun qui se sont déversées dans la région et ont allégé le sol, ce qui fait que le sol est très meuble, il est moins argileux, il est moins sablonneux. Et c'est un mélange de terre vraiment utile pour la culture du poivre. Et ça lui apporte donc des éléments particuliers qui donnent sa variété, sa qualité.
Et quelle est cette qualité particulière?
C'est les arômes, c'est les essences intérieures. Il est plus claquant, il est plus piquant, et il est plus aromatisé.
Donc c'est combien le prix au kilo du poivre en ce moment, du poivre de Pendja?
Au Cameroun, entre 10 000 et 12 000. En 3 ans, le prix a presque doublé. Il y a 3 ans, le poivre était à 6 000.
Et alors, comment on explique ça, que le prix a doublé en 3 ans?
Depuis qu'on a commencé à chercher le label du poivre de Pendja, sa qualité de poivre, ça a permis qu'on nous donne un label, ça veut dire qu'on nous donne un nom qui permet de vendre dans ce marché, à ce poivre à l'extérieur.
Ce label, on l'appelle indication géographique protégée.
Indication géographique protégée.
Parce que ce poivre de Pendja, il correspond à une zone...
Une zone déterminée. Il y a Manga, il y a Mambo, il y a Njombe, il y a Pendja, il y a Loum, et puis il y a Manjo. C'est la zone indiquée.
Et pourquoi c'est important de donner un label à ce poivre?
C'est pour distinguer la qualité, parce que le poivre vient de toutes les provenances. Parce que nous avons un cahier de charges qu'il faut respecter. Ce cahier de charge permet que d'une plantation à l'autre, les gens du groupement produisent la même qualité.
Et donc en fait, là, ça ressemble à quoi cette plantation? Ça monte jusqu'à environ 5 mètres au-dessus
du
sol?
Oui, 4-5 mètres. Il y a le tuteur sur lequel on conduit le poivrier. Le poivrier lui-même, c'est une liane qui prend le temps de s'enrouler. Ce tuteur aussi, c'est un arbre spécial. Le plus souvent, on utilise l'érythrine.
L'érythrine.
L'érythrine, oui. Il résiste. Il a une seule racine pivotante qui peut aller à 2 mètres du sol chercher de l'eau. Donc, il ne meurt pas. C'est pour ça que les anglophones l'appellent Nevada stick.
Nevada stick.
Nevada stick. L'arbre qui ne meurt pas. Il est spécial pour faire la culture du poivre.
Mais d'ailleurs, le sol est bien sec, là. Il fait sec en ce moment?
Actuellement, il fait trop sec. Il fait trop sec. Les poivriers en souffrent. Ça, c'était un problème. Depuis 2, 3 ans, 4 ans, on a ces problèmes de sécheresse.
Et est-ce que vous utilisez des produits?
Des engrais.
Des pesticides?
Peu de pesticides.
Est-ce que le cahier des charges dit quelque chose pour les produits?
Il précise les moments de traitement des insecticides et fongicides. Les insecticides de contact qu'il faut traiter 3 mois avant la période de récolte. Vous voyez qu'ils ont d'abord fait des ravages.
Ah oui, ça se voit sur les feuilles là.
Ils ont fait des ravages.
Elles sont toutes mangées et blanchies.
On a traité, ils sont morts. Mais on donne un écart entre 2-3 mois avant le début des récoltes. Tout ça, ça rentre dans le cahier de charge.
Michel, la première fois que je te vois immergé.
J'aime bien être dans les plantations de poivre.
Je suis Michel Gonomi, chargé du programme des indications géographiques à l'OAPI.
L'OAPI, c'est
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
Qui conduit la mise en place de ces indications géographiques protégées, qui sont comme des appellations d'origine. Et ce label, pour l'instant, officiellement, il concerne 3 produits.
Poivre de Pendja et miel blanc de Kou, c'est les produits du Cameroun. Le café Ziama Macenta, c'est un produit de la Guinée-Conakry.
Leur qualité est liée à un terroir, un territoire.
Un terroir, c'est ça, au terroir d'origine.
Et pour qu'un produit puisse prétendre au label, il faut que ces communautés se regroupent en association ou en coopérative ou en regroupement, c'est ça?
Effectivement, oui. La particularité des indications géographiques par rapport aux autres systèmes de propriété intellectuelle, c'est que c'est une propriété collective. Ça fait qu'une des conditions préalables, c'est d'identifier les producteurs et de les organiser en association.
Thank you. Je suis Itongue Gaspard.
Donc vous représentez le...
Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural dans l'arrondissement de Ndjombe-Pendja. Tout le processus de l'indication géographique, c'est une question de traçabilité du champ jusqu'au consommateur. Voilà, ce produit, on sait d'où il vient, qui en est le producteur, le pépiniériste, le distributeur. Donc le processus de l'IG conduit à l'identification de tous ces maillons de la chaîne qui concourent à la fin à produire un produit de bonne qualité qui sera apprécié tant au niveau local qu'au niveau international, au niveau extérieur.
Pour l'instant, c'est surtout consommé. 80%, c'est beaucoup.
Beaucoup de ce que nous appelons les distributeurs.
André Takougoum, planteur de poivre.
Ils viennent, ils sont nombreux, de Douala, Yaoundé, dans tout le Cameroun. Ils viennent dans la région chercher du poivre pour aller détailler sur le marché local. Consommer sur place, ce n'est pas tellement vrai, parce que les quantités qui vont au Gabon, en Centrafrique, en Guinée, nous ne pouvions pas les maîtriser, on ne peut pas les déterminer. Le grossiste achète, et sur le marché, il vend à qui il veut. On vient de démarrer aussi des petits clients d'exportation qui en sollicitent, mais il n'y a pas encore de quantité.
Vous avez un statut de producteur ?
Oui, oui, je suis chef de production ici, mais j'ai ma petite plantation, j'ai 2 hectares.
Donc vous êtes aussi producteur indépendant ?
Je suis aussi producteur indépendant. Je fais du poivre parce que j'ai vu que le poivre est plus rentable.
Vous gagnez combien d'argent en plus avec votre plantation personnelle ?
Pour le moment, je peux arriver à faire 1 tonne de poivre, ce qui peut apporter facilement 10 millions de francs.
10 millions de francs CFA par an avec vos 2 hectares.
Avec mes 2 hectares.
Mais alors, vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?
J'ai 4 enfants dans les universités. C'est des charges que je paye. Et si je produis 1 tonne de poivre, ça fait 10 millions, ça leur couvre, c'est tout.
L'argent que vous gagnez avec le poivre,
ça couvre au moins les études des enfants.
Les études supérieures de vos enfants.
Oui.
Vous voyez, il y en a qui ont beaucoup crevé là. Il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte lorsqu'on veut manipuler les plants, les boutures.
C'est fragile.
Très, très fragile. Il faut qu'on vienne chaque fois vérifier, enlever des petites feuilles qui ne sont pas très bien, qui nuisent à l'évolution de la plante. Je suis Sop Jean-Marie, secrétaire général du groupement représentatif IG Poivre de Pendja.
Là, on est dans la pépinière.
Oui, dans la pépinière, vous voyez, la pépinière, lui, ça, c'est des plants qui sont mis en jumeaux. On peut avoir un qui décède et l'autre va vivre. Ça, on réduit ainsi le risque, tout simplement. Vous voyez, on met 2 plants par pot et chaque pot dans un sachet. Le cycle de vie, minimum 6 mois.
Le cycle de vie des boutures.
Des boutures, pour pouvoir avoir un plan adapté à l'environnement actuel et prêt à être planté, à être transplanté dans les champs.
Et après, il faut attendre combien de temps pour un début de production?
Alors,
de poivre?
Régulièrement, c'est 3 années. 3 années pour pouvoir commencer à récolter les premiers grains. Voilà.
On est rentré à l'intérieur d'une pépinière.
Avec qui nous avons travaillé depuis 5 ans. Pour mettre sur pied des plans améliorés pour les producteurs qui en ont besoin.
Emmanuel Zenovo.
Si les boutures ne viennent pas d'une plantation qui est dans l'aire géographique délimitée, on risque à la fin de ne pas avoir le poivre de Pendja. Donc ils auront des codes de traçabilité.
Parce que ce poivre de Pendja, il est d'une qualité telle que ça favorise les cas de fraude, de vol, d'usurpation.
Vous touchez là le cœur du problème de notre filière. Il y aura un système de contrôle strict pour la vérification du respect des exigences du cahier des charges. La première chose, c'est que chaque opérateur doit avoir un document, un registre ou un cahier. Nous appelons ça cahier de pépinière. Quand est-ce que vous avez fait le repiquage des boutures dans les plants? Quand est-ce que vous avez fait le traitement? S'il a fait un traitement au niveau de sa pépinière, le producteur doit avoir un cahier de culture. Il faut qu'il puisse répondre. J'ai acquis les plants de pépinière telle année. Telle parcelle a 2 ans, pour dire 2 ans, il faut qu'on voit dans un document qu'il a fait le planting telle ou telle année. Il faut qu'il nous dise combien d'épandage d'engrais il fait. Il y a un délai que vous devez respecter avant de récolter. Tout ça doit être consigné dans un document que le contrôleur doit vérifier. Donc voilà, le cahier seul ne suffit pas, mais c'est déjà un élément de traçabilité qui permet au producteur de surveiller son travail et qui aide le contrôleur à savoir si le producteur respecte le cahier des charges.
Et justement, qui est le contrôleur dans ces cas-là? Qui effectue les contrôles parmi les pépiniéristes, producteurs, distributeurs?
Les exigences du label IGP voudraient que le contrôleur soit neutre. Du coup, il faut penser à la rémunération et pour l'instant, nos capacités financières, nos ressources ne nous permettent pas encore de le faire. C'est dans le cadre d'un projet. Mais au niveau interne, il y a quand même des contrôleurs par bassin de production avec qui je travaille. L'association des distributeurs a également des contrôleurs qui sont formés pour vérifier les types d'emballage. Ils ne doivent pas prendre des sacs de pesticides pour mettre le poivre. Ça va détruire tout le travail que nous avons fait depuis la pépinière. Le lieu de stockage, tout ça est vérifié au niveau interne. Imaginez que le seul fait psychologique pour le consommateur de savoir que le produit poivre de Pénia est labellisé a fait que le prix passe du simple au quadruple en 3-4 ans. Si demain nous apposons ce signe distinctif, le logo, sur les emballages, le produit aura encore plus de valeur aux yeux du consommateur et apportera plus de revenus au producteur. Donc c'est dans l'intérêt du producteur de respecter le cahier des charges.
Ah. Allô, yawa, allô Saouri. Allô, Sungula.
Reportage de Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron. Aurélie Amim-Richard, je rappelle que vous êtes chargée de projet indication géographique à l'Agence française de développement. Alors on comprend bien à travers ce reportage qu'il y a un processus très strict pour obtenir l'indication géographique. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques comme vous le faites certainement avec les producteurs que vous accompagnez. Mais disons pour nos auditeurs, en gros, comment ça se passe? Quelles sont les différentes phases?
Alors, le préalable, c'est déjà d'avoir un produit dont on puisse démontrer le lien au terroir et un produit d'une qualité spécifique avec un potentiel sur les marchés et dont le lien avec son origine géographique, son terroir, puisse être démontré.
Est-ce qu'il y a une histoire d'ancienneté? Est-ce qu'il faut produire depuis plusieurs dizaines d'années?
Très souvent, ça rentre en compte dans cette démonstration puisque au-delà du terroir, donc de la considération géographique, physico-chimique, etc. Il y a aussi un savoir-faire traditionnel qui est associé. Et donc, l'action de l'homme sur justement cette culture qui est à démontrer.
Alors, donc, une fois qu'on... Par exemple, je suis auditeur de RFI, là, j'entends ça, je me dis, ben moi, je produis avec les gens qui habitent autour de chez moi un produit particulier qui a tous les critères dont vous venez de parler. Quelle démarche je dois faire pour essayer d'obtenir ce label?
Alors, c'est avant tout une démarche volontaire et collective. Ces deux mots sont importants. Volontaire, puisque c'est un groupement de producteurs qui se lance dans la démarche de manière volontaire. Et collective, puisque, comme je le disais, c'est un droit de propriété intellectuelle qui appartient à un groupe. Donc, les producteurs doivent s'organiser en association de producteurs. On le voit, ça part souvent d'un noyau de producteurs très motivés. Petit à petit, la démarche s'étend. Et fait rentrer également d'autres acteurs de la filière. C'est important d'avoir les pépiniéristes, les distributeurs qui soient aussi associés à cette démarche pour s'assurer que la qualité est maîtrisée tout au long de la chaîne de valeur.
Donc, on crée ce groupement. Après, on fait quoi? On dépose un dossier?
Alors, le préalable, c'est cette démarche d'amélioration de la qualité. Puisque avant d'élaborer un cahier des charges de cette indication géographique, il faut s'assurer que la qualité du produit qui est attendu par le consommateur est bien au rendez-vous. Donc, il y a souvent une phase qui est assez longue, qui peut durer un an, deux ans, plusieurs années, vraiment d'amélioration de la qualité de la production.
Il y a un appui pour ça?
Il y a un appui pour ça. Donc, dans le cadre des projets que l'AFD finance, des experts sont mobilisés au quotidien auprès des associations de producteurs pour travailler sur cette qualité tout au long de la chaîne de valeur. Et ça demande énormément d'énergie en termes de sensibilisation, de formation des acteurs, donc les pépiniéristes, les producteurs, les distributeurs. Ça, c'est la deuxième phase. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur la qualité attendue du produit, le groupement de producteurs élabore un cahier des charges. Donc, ce cahier des charges doit contenir la qualité attendue du produit, les modes de production, le terroir également qui est concerné. Une fois que ce cahier des charges est élaboré, celui-ci est déposé par le groupement de producteurs auprès d'une autorité publique, donc l'État, pour faire une demande d'enregistrement sous forme d'indication géographique. Donc là, c'est l'État qui va analyser ce cahier des charges, vérifier qu'il remplit bien les conditions et, à terme, fournir le titre de propriété intellectuelle, donc l'indication géographique.
Encore faut-il que son pays ait adhéré à l'organisation de propriété intellectuelle africaine, parce qu'il faut qu'il y ait un monsieur indication géographique dans le pays.
C'est ça. Alors, au niveau mondial, les indications géographiques sont reconnues au travers d'un accord qui est signé par les pays de l'OMC, qui s'appelle l'accord ADPIC, qui définit les indications géographiques au niveau mondial et charge à chaque pays ou groupe de pays de le retranscrire dans sa réglementation nationale ou dans une réglementation régionale. C'est le cas au sein de l'Union européenne et c'est le cas au sein des pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc ce sont 17 pays membres en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, plus les Comores, qui aujourd'hui adhèrent tous ensemble à cette OAPI, ce qui leur permet d'avoir une réglementation commune sur les IG.
Alors on comprend bien aussi à travers ce reportage qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la préservation de l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait ces produits, leur qualité dépend des écosystèmes qui les entourent.
Oui, et c'est tout à fait singulier dans le cas du miel d'Oku, puisque on voit que la production du miel, et donc la source de revenus des producteurs, dépend de l'écosystème qui est associé. Et de nombreuses initiatives aujourd'hui en Afrique, en Asie du Sud-Est, cherchent à démontrer l'intérêt des IG pour la valorisation économique des produits naturels. Et donc de démontrer ce lien entre valorisation économique d'un produit et développement de pratiques favorables à la préservation des écosystèmes. Ça, c'est une part du lien entre les indications géographiques et la question environnementale. Donc ce lien est direct dans le cas de produits naturels, produits issus directement des écosystèmes. Dans le cas de produits agricoles, ce lien est moins direct puisque les producteurs décident de ce qu'ils inscrivent dans les cahiers des charges. Donc ça peut aller très loin dans la préservation de l'environnement ou dans des pratiques, on va dire, environnementales positives. Donc ça peut aller jusqu'au bio.
En revanche, ce n'est pas une obligation.
Ça n'est pas une obligation.
Alors après, c'est difficile de faire reconnaître son label, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Là aussi, il y a un déséquilibre nord-sud quand même.
À partir du moment où la réglementation existe, théoriquement, on peut faire reconnaître son indication géographique.
Mais par exemple, si on est un groupe de producteurs en Afrique et qu'on a le label qui est décerné par cette organisation de la propriété intellectuelle africaine, ce label est reconnu du coup dans combien de pays ?
Alors à ce stade, ce label n'est reconnu que dans les 17 pays membres. Ce qui veut dire que si un groupement de producteurs souhaite également faire reconnaître son label ailleurs, c'est le cas par exemple du poivre de Penja qui est vendu en France et dans l'Union européenne, il va probablement y avoir une volonté de ce groupement de producteurs de faire reconnaître l'indication géographique également dans le marché européen. Et aujourd'hui, charge à eux de déposer une demande directement auprès de l'Union européenne. Mais ce système va évoluer puisque un accord international au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a évolué en 2015 pour qu'une demande déposée dans l'un des pays membres de cet accord, au nombre de 26, puisse être automatiquement reconnue dans les autres pays, dont l'Union européenne.
Alors ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Voilà. Hein, le poivre de Kampote, sur lequel nous avions fait un reportage aussi dans C'est pas du vent, qui lui est au Cambodge, est reconnu au sein de l'Union européenne depuis février 2016. Alors vous avez accompagné avec l'AFD des producteurs au Cameroun, en Guinée, et vous allez en accompagner dans d'autres pays ?
Oui, avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, donc nous sommes en train de développer un nouveau projet avec eux une seconde phase pour essayer d'étendre la démarche et également de former un réseau d'experts au sein des pays membres de l'OAPI pour permettre d'accompagner de nouveaux groupements de producteurs et qu'on ait plus d'indications géographiques qui puissent être reconnues au sein de ces pays.
Alors dans quel pays en particulier ?
Alors, nous avons à ce stade ciblé 4 pays prioritaires qui sont très dynamiques sur le sujet, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin et également le Cameroun et la Guinée qui ont pu faire reconnaître donc, les premières IG africaines. Mais il n'est pas exclu que de nouveaux pays puissent être accompagnés par la suite.
Et où est-ce qu'on s'adresse si on a envie justement d'avoir accès à cette démarche, d'en savoir plus ?
Alors, dans les pays, chaque pays qui va être accompagné au travers du projet bénéficie d'un comité national IG. Donc, c'est un comité interministériel qui est présidé soit par le ministère de l'Agriculture, soit par un organisme en charge de la propriété intellectuelle, ça dépend des pays, avec un point focal qui est désigné. Donc, c'est vraiment ce point focal dans chacun des pays qui est en charge de développer ce sujet-là.
Merci beaucoup Aurélie Amim-Richard pour toutes ces précisions. Merci à François Porcheron
Merci
pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Et à vous pour votre fidélité. Pour réagir ou poser des questions, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag cestpasduvent. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.